Nous sommes en mai 2047. C'est une après-midi comme une autre. Julie, mon épouse, est allée cueillir des orties. Mon père tricote dans la chaise à bascule du salon et ma belle-mère lit le journal. Je fais le ménage dans la salle de bain en veillant à ce qu'il nous reste suffisamment d'eau pour la soupe de ce soir. Il fait chaud. Je retire mon t-shirt pour plus de confort. Une petite voix se manifeste dans le salon. C'est Léa, notre fille de 3 mois. Elle se réveille après une longue sieste. Elle a faim. Je rince la baignoire, je sors la serpillière. Les petits sons de Léa s'intensifient.
David !
C'est ma belle-mère qui appelle. J'arrive. Je m'approche du berceau. Sa petite bouille de nourrisson me touche. Ses mains et ses jambes se débattent comme pour dire « Dépêche-toi !» Je la prends dans mes bras. J'aime sentir sa peau sur mon torse, inspirer son odeur délicate. Je m'installe sur le canapé, à côté de ma belle-mère. Léa s'empresse de chercher mon téton sur mon torse nu. Elle l'attrape et se met à téter goulûment. Je lui caresse la tête, pendant qu'elle me caresse l'autre sein avec méthode et dévouement. Pourvu qu'elle ne me tire pas les poils cette fois-ci. C'est tellement douloureux.
Mais comment ? Un homme qui donne le sein ? Est-ce possible ? Bienvenue au podcast à la découverte des seins par Simona Ferrar, épisode 1, les seins des hommes. Un projet de mise en scène m'a amené à réaliser une recherche sur la considération qu'on porte aux seins dans notre société occidentale. C'est ainsi que je suis tombée sur des informations fascinantes sur ces organes qui existent mais qui ne circulent que peu. Que se passerait-il si chacun, chacune connaissait vraiment ses seins ? Dans toutes leurs fonctions, leurs spécificités, leurs vulnérabilités, leurs potentiels. Une telle connaissance serait-elle susceptible de transformer notre société, son fonctionnement, ses coutumes, ne serait-ce qu'un peu ? Cette série de podcasts est née de l'envie de partager ces questionnements et découvertes sur les seins, afin de mieux les comprendre et de repenser, collectivement, notre manière de les considérer. Ce premier épisode est consacré aux seins des hommes. Mais oui, parce que les hommes ont des seins, n'est-ce pas ? Ou faudrait-il plutôt parler de torse, de pectoraux ? Quelle est la différence ? Le doute m'a pris. J'ai donc vérifié dans le Larousse en ligne. La première définition fournie est...
Non masculin, organe père très développé situé à la partie antérieure du thorax chez la femme et qui contient la glande mammaire.
Mais les hommes ont aussi des glandes, non ? C'est vrai que leurs seins sont moins développés que la moyenne des seins des femmes, mais enfin, ils ne sont pas complètement plats non plus. Et surtout, ils ont un mamelon, n'est-ce pas ? Il sert à quoi alors ce mamelon ? J'ai soumis mon questionnement à Nathalie Poulet, qui travaille au centre Otium, à Genève. Ce lieu accompagne des personnes atteintes du cancer, des femmes comme des hommes, pendant les phases de traitement et de rémission.
Moi, je pense qu'il y a des hommes, ils ne savent pas, franchement, hein, que le cancer des seins chez les hommes existe, parce qu'ils ne voient pas leur corps comme ayant des seins, mais comme ayant un torse, ce qui est complètement différent. On parle des femmes en parlant de leurs seins. Mais je ne suis pas sûre qu'on parle des hommes en parlant de leur sein. Quand on parle d'un homme qui est beau, qu'on voit... toutes les filles ont dit un jour « Oh, mais t'as vu comme il est beau, t'as vu le torse qu'il a ?» On ne dit jamais « T'as vu les seins qu'il a ?» Enfin, jamais. Enfin, excusez-moi, moi, je ne crois pas avoir entendu ça. Par contre, on parle des femmes en disant « T'as vu les seins qu'elle a ? La poitrine qu'elle a ?» On les distingue tellement. Le buste, on y met des courbes, on y met quelque chose de ronde. Le torse, on y met quelque chose de viril, de musclé, enfin dans les clichés. Hein. Mais je ne crois pas qu'on parle des seins des hommes. On en parle quand ils sont malades. Et là, on vient allumer une lumière, j'ai l'impression, en disant « Mais vous avez des seins aujourd'hui parce que vous avez un cancer. Donc on vous informe que vous avez des seins. »
Ne serait-il donc pas temps de s'intéresser de plus près au sein des hommes ? À cette partie plus délicate de leur anatomie, plus vulnérable peut-être, celle qui se trouve sous ces muscles bien gonflés qu'affichent avec tant d'enthousiasme les publicités de sous-vêtements masculins. Ne serait-il pas temps d'offrir au sein des hommes une attention, une écoute, de faire leur connaissance en somme ? « Il existe un peuple de chasseurs-cueilleurs en Afrique centrale qui a bel et bien su explorer le potentiel des seins des hommes. Leur manière de les honorer m'intrigue. J'ai eu la chance de rencontrer l'anthropologue Barry Hewlett qui travaille au Washington State University aux États-Unis et qui les a observés de près. Il s'agit des pygmées Aka et voici comment les hommes de cette communauté intègrent leurs seins dans leur vie de tous les jours.
Ils offrent leur sein, et ce n'est pas si inhabituel de les voir offrir le sein à un nourrisson. Ils pratiquent la chasse au filet, et les hommes, les femmes et les enfants partent chasser ensemble. Ils se retrouvent donc tous ensemble pendant la journée, et ils sont disponibles les uns pour les autres. Et les nourrissons sont emmenés à la chasse au filet. Il peut donc arriver que la mère s'absente pour poursuivre du gibier, et le père, pendant ce temps, tient le nourrisson, et ce dernier se met à pleurer, à s'agiter, et le père, qui sera peut-être seul avec l'enfant ou pas, va chercher à l'apaiser. Et c'est dans cette situation, lorsqu'il cherche à calmer l'enfant, qu'il va parfois lui offrir le sein. Dans les premiers mois, ce sont les mères qui portent le nourrisson pendant 50% du temps, et d'autres personnes sont là pour la relayer. Les pères Aka sont très impliqués. Ce sont les pères qui assurent le plus de tâches éducatives et de soins aux enfants dans le monde. On ne connaît aucune autre société où les pères s'impliquent autant.
En tant que mère, cette image me fait rêver. Comme j'aurais aimé avoir une telle équipe autour de moi à la reprise de mes activités après la naissance de mes enfants. La conciliation de ma vie professionnelle et familiale aurait été bien plus aisée si j'avais pu prendre mes nourrissons avec moi sur mon lieu de travail, tout en étant accompagnée de personnes qui pouvaient s'en occuper à mes côtés. Mais comment cette communauté Aka en est-elle arrivée à imaginer un tel geste? Barry Hewlett insiste sur l'importance de le contextualiser.
Ils sont très égalitaires, farouchement égalitaires en termes de politique, de genre et d'âge. Donc, lorsqu'une personne se met à se vanter de ses exploits, la communauté fait usage de toutes sortes de stratégies pour lui signaler le dépassement. Ils vont la taquiner, par exemple, avoir recours à l'humour, de manière à ce que tout le monde reste sur un pied d'égalité. Dans notre mode de vie, on nous rappelle constamment que nous ne sommes pas égaux, que rien n'est égalitaire, qu'une personne vaut plus qu'une autre. À l'école, l'enseignant, l'enseignante a une position particulière et on retrouve cela dans la vie professionnelle aussi. Cette inégalité est présente depuis le tout début et elle nous est rappelée tous les jours. L'autre valeur chère au peuple Aka est le respect pour l'autonomie. On respecte l'autonomie de toute personne, quelles que soient ses envies. Ça, c'est très important. C'est un élément clé de leur vie. Un autre aspect est celui du partage, qui est très répandu. 80% de la nourriture récoltée par les individus lors de la chasse au filet est partagée avec le reste du groupe, avec tout le monde. Donc, ils partagent les ressources alimentaires. Et puis, dans ce même esprit de partage, ils se répartissent aussi, naturellement, la prise en charge des enfants. Et, dernier point, leur mode de vie est extrêmement flexible. Les rôles liés au genre sont bien présents en termes d'hommes et de femmes. Par exemple, de manière générale, ce sont plutôt les hommes qui portent le filet. Mais cela ne pose aucun problème si un jour une femme se dit « Bon, allez, aujourd'hui, c'est moi qui porte le filet ». Ça ne pose aucun problème. Ils font preuve d'une très grande flexibilité.
Mais alors, ces seins d'hommes produisent-ils du lait?
De ce que j'ai pu observer, les hommes ne produisent pas de lait. Mais rappelons-nous que ce n'était pas l'objet de ma recherche.
La question me titille. Est-ce qu'elle n'intéresse que moi? Et surtout, est-ce qu'une telle possibilité est susceptible d'attirer les principaux concernés, à savoir les hommes? Un heureux hasard m'a amené à rencontrer Ewen et Charlotte, qui attendent leur premier enfant. Face à sa nouvelle identité de père, Ewen s'est posé la question de la possibilité d'allaiter son nouveau-né.
Je ne sais pas exactement pourquoi. Un jour, ça m'est venu de me dire, mais je Je pense qu'il y a une question d'égalité dans le couple, de partage des tâches, on va dire. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, pourquoi pas l'allaitement, puisque la grossesse, ça n'est pas possible, je ne peux pas porter le bébé dans mon ventre. Mais peut-être que, en fait, on ne le sait pas, mais ça se trouve, les hommes peuvent allaiter. J'ai fait quelques recherches sur Internet, ça n'a pas duré très longtemps, l'affaire d'une soirée, et je suis tombé sur... Surtout des témoignages, enfin des témoignages, des articles parlant de situations d'urgence où la mère était décédée et donc le père devait assumer le bébé, ou je sais pas, il se retrouvait tout seul, perdu au milieu de rien avec son bébé. Et aussi que visiblement tout est en place physiologiquement, sauf peut-être cette question d'hormones et aussi des questions de place, d'espace, que pour l'instant, c'est un peu, chez les hommes, c'est un peu réduit, quoi. De ce que j'ai retenu de ces recherches-là, c'est que pour l'instant, c'était pas possible. Mais peut-être qu'un apport d'hormones, il serait possible dans un futur de penser à ça et d'y réfléchir. Enfin, d'y arriver, en tout cas.
Pour Charlotte, sa compagne, l'idée est séduisante. Toutefois, tous deux constatent rapidement que le soutien en place pour accompagner une telle quête est maigre, voire inexistant.
Et du coup, dans la continuité, donc Ewen m'en a parlé. Moi, je suis féministe militante depuis plusieurs années. Donc, c'est à partir du moment où j'ai... déjà, on a pensé à une grossesse et ensuite, j'ai appris que j'étais enceinte. Ça a été très vite des questions, évidemment, et des inquiétudes. Du partage des tâches, de l'intrusion de la maternité sociale dans ma vie et des limites que mon titre personnel je pouvais poser ou pas poser, quelle est notre part de liberté à nous, dans quelle mesure on va forcément être soumis aux normes et au patriarcat. Donc on en a beaucoup parlé. Et quand Ewen m'a parlé de cette question de l'allaitement masculin, d'abord, j'ai trouvé l'idée géniale. Et j'étais extrêmement surprise de ne pas du tout en avoir entendu parler jamais dans aucun milieu militant, dans aucune source féministe que je lis, et j'en ai lu beaucoup. Et aussi, je me suis dit, l'allaitement étant une des contraintes importante de la maternité, ou en tout cas un des arguments souvent donnés pour dire que les femmes ne peuvent pas être totalement libres, souvent soumises à ce rythme, à cette fatigue, etc. Ça me semblait vraiment une excellente nouvelle. donc par contre, je n'ai trouvé moi aucune source. Enfin, vraiment, j'ai regardé sur Google, sur Internet, et j'ai trouvé que c'était extrêmement faible. Il n'y avait rien. J'en ai parlé à trois copines qui n'en avaient jamais entendu parler. Et la seule source donc, que j'ai trouvée, c'est donc dans La Déferlante, le magazine en question, qui s'appelle « Réinventer la famille, en finir avec le modèle patriarcal ». Et il y a trois lignes sur l'allaitement masculin. Hein. Donc c'est au milieu quand même d'une réflexion globale qui est intéressante. Mais il y a trois lignes et les deux informations données sont que on n'est pas sûr que ce soit possible et que si c'est possible, c'est avec des hormones, sans source, sans rien, donc débrouillez-vous. Donc c'est très fragile. Et ensuite, l'autre chose aussi qui m'a marquée, c'est que j'ai aussi noté que quand j'en ai parlé autour de moi, donc par exemple, j'ai remarqué que ça a fait rire.
Je comprends bien le sentiment d'impossibilité exprimé par Charlotte et Ewen. Mais dans le fond, quelle est la vraie nature des obstacles qu'ils rencontrent? Sont-ils purement physiologiques? Je me suis donc tournée vers Luc-Alain Giraldo, directeur de l'Institut national de recherche scientifique du Québec. Il est l'auteur du livre « Dans l'œil du pigeon » qui met en lumière la dimension culturelle liée à l'évolution de notre espèce. Il s'est à plusieurs occasions posé la question de la possibilité de la lactation masculine, que ce soit dans ses recherches d'écologiste comportemental ou dans sa vie de père. Son avis sur la question confirme les informations récoltées par Ewen et Charlotte.
C'est physiologiquement possible. on a la glande mammaire. Elle a été inhibée dans son développement par la production de testostérone à l'adolescence, mais elle est là. Et en plus, elle est connectée au mamelon. Donc, il y a un canal qui le. Il n'y a pas anatomiquement de problème. Il faudrait juste restimuler la glande mammaire pour qu'elle puisse prendre plus d'ampleur. Mais comme vous le savez, on n'a pas besoin d'avoir d'énormes glandes mammaires pour produire beaucoup de lait. Ensuite, tout ce qui manque, c'est la prolactine pour produire le lait. La prolactine, c'est l'hormone du lait chez tous les mammifères. C'est la même hormone. Je pense que la physiologie de la production de lait est assez simple et direct. Et comparé, par exemple, à ce qu'il a fallu comprendre dans la complexité des cycles hormonaux féminins pour contrôler l'ovulation. Et si c'est possible de vous donner une pilule pour arrêter votre cycle d'ovulation, ça doit être tout aussi simple d'imaginer une intervention pharmacologique pour permettre aux hommes d'allaiter.
Bon, c'est donc assez clair. Mais si les hommes voulaient se passer d'avaler des pilules hormonales, serait-ce tout de même envisageable?
Oui, c'est possible de le faire sans un apport pharmacologique, juste d'un point de vue comportemental. Le cas décrit le plus clair et par une personne de grande réputation, donc l'explorateur von Humboldt, c'est ce fameux Lozano dans ce qui est maintenant le Venezuela, qui a allaité pendant des mois son enfant suite à une maladie de la mère de l'enfant. Et puis, il raconte qu'il a fait comme ces peuples qui, pour apaiser l'enfant, portaient l'enfant à son mamelon. Et je pense que l'irritation du mamelon, c'est un élément important pour déclencher la prolactine, même chez la femme, qui fait en sorte que le lait est produit. C'est cette douleur qui déclenche la cascade hormonale. Est-ce qu'il a eu la même cascade hormonale qui a fait en sorte qu'il a pu allaiter? Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas pu étudier la physiologie de M. Lozano, mais son anatomie, par un bon médecin français, le docteur Bonplan, a confirmé qu'il était normalement constitué comme un homme, à l'exception d'avoir deux mamelles, dont une était flétrie, plus flétrie que l'autre, la gauche, qui servait plus, qui produisait plus de lait.
Ce cas de Francisco Lozano a été répertorié au 19e siècle. Il est considéré comme un cas rare. Mais en effectuant moi-même quelques recherches sur Internet et dans mon entourage, j'ai découvert des histoires d'hommes qui ont, eux aussi, produit du lait. Une connaissance m'a parlé d'un adolescent qui, pour amuser ses copains, sortait de temps à autre son mamelon pour en extraire quelques gouttes. Une collègue m'a raconté l'histoire d'un homme de son entourage qui s'était mis à produire du lait lors d'une dépression. Dans les articles accessibles sur Internet, le cas d'un homme sri-lankais est souvent relaté, qui, à la mort de sa femme, aurait donné le sein à ses deux enfants en bas âge afin de les apaiser. Ce simple geste lui aurait permis, à sa grande surprise d'ailleurs, de produire du lait. La lactation masculine semble donc déjà avoir fait son apparition dans notre société. Mais je me demande, pourquoi n'étudions-nous pas ces cas de plus près? Et aussi, pourquoi ne cherchons-nous pas à développer cette possibilité, à la rendre accessible à tous? Ne sommes-nous pas là devant une solution très intéressante pour favoriser une répartition plus égalitaire des tâches parentales?
En fait, il n'y a pas de demande commerciale. Avec la libération sexuelle des années 60, il y avait une énorme demande pour la contraception, pour libérer d'une certaine façon la femme, qu'elle puisse avoir des relations sexuelles sans s'inquiéter. Et donc, il y avait une demande commerciale. Et alors, évidemment, les pharmaceutiques répondent aux demandes. Il y a zéro demande pour aider les hommes à allaiter socialement. Je pense qu'avec aussi tous les espèces de révolutions des LGBTQ2+, etc., hein, je pense qu'il y aura de plus en plus de demandes. Les gens, il y a des couples gays de plus en plus, il y a le mariage gay, il y a des mariages de personnes queer. Il y a toute une redéfinition de mâle-femelle, ce qui forcément va entraîner toute une redéfinition de mère et père, parce que c'est des rôles qu'on associe vraiment à, vous êtes mère, vous êtes une femme, vous êtes père, vous êtes un homme, mais s'il n'y a plus d'hommes et de femmes, c'est quoi les rôles exactement? Donc, j'ai l'impression que ça pourrait, à terme, venir de ce mouvement d'émancipation des gens, si vous voulez, qu'il pourrait y avoir une demande pour l'allaitement sur demande. Il faut que ce soit une personne qui accepte qu'une fois qu'ils auront développé des glandes mammaires plus volumineuses, ben, qu'ils auront des seins.
Cette question de voir sa poitrine se transformer, Ewen se l'est posée aussi.
Là, je ne saurais pas exactement comment aborder la chose. Me retrouver avec des seins, je ne saurais pas trop comment ça... Ce que ça me ferait mentalement aussi, ou mais, ne serait-ce que physiquement, si, à quel point je pourrais l'envisager. Je pense que ce serait une discussion qu'on devrait avoir ensemble aussi. De me projeter dans l'idée d'avoir un physique qui change, voilà, et qui change peut-être de manière irrémédiable, on va dire. Et en même temps, quand je dis ça, j'y ai pensé tout à l'heure, mais toi, en tant que femme, tu es enceinte, ça va aussi changer des choses, ça change aussi des choses dans ton corps. Donc c'est forcément une question culturelle de se dire pourquoi moi, je devrais, mon corps serait aussi... un temple, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, ça pose aussi vraiment des questions de genre, de
binarité.
De binarité, ouais, de s'inscrire vraiment dans... Voilà, moi, mon corps, il doit correspondre à tel critère parce que je suis de tel sexe ou de tel genre, et de pas encore arriver à dépasser ça mentalement.
Et socialement.
Et socialement, ouais.
Un homme cisgenre avec des seins, une telle réalité ne m'a jamais été présentée formellement. Ni les publicités de mon époque, ni les films, ni les innombrables œuvres parcourues pendant mes études d'histoire de l'art ne m'ont ouvert les yeux sur une telle image. J'ai grandi avec l'idée très simple et parfaitement binaire que les femmes ont des seins et que les hommes n'en ont pas. Chez les pygmées Aka, en revanche, la réalité est tout autre. Certains adolescents de cette communauté développent en effet des seins. On appelle ce phénomène la gynécomastie. Ma conversation avec Barry Hewlett m'a là aussi permis d'accéder à de nouvelles images.
Une des choses que j'ai évoquées est le fait que certains mâles ont une gynécomastie. Ils développent des seins. C'est assez fréquent de voir des adolescents mâles avec des seins. J'ai moi-même été surpris la première fois que j'ai vu ça, et certains ont des seins relativement grands, aussi grands qu'une adolescente. Je pense que la gynécomastie est liée à la prolactine, et la prolactine a plus de chances de se manifester quand on touche la poitrine. Or, le nombre de contacts physiques qui se produisent entre les personnes Aka sur une durée de 24 heures est très élevé, surtout parmi les chasseurs-cueilleurs.
In particular with hunter-gatherers. Certainly co-sleeping.
Il y a le cododo, notamment. Quand je dis cododo, je parle de dormir dans le même lit. Il y a la mère, le père et plein de gens qui sont physiquement en contact. Ils sont physiquement en contact la plupart du temps. Et je suis certain que cette réalité a vraiment un effet sur les hormones. Donc je pense que le toucher est lié à l'ocytocine. Les niveaux d'ocytocine augmentent quand on se touche beaucoup, quel que soit le type de toucher. Je ne sais pas vraiment pourquoi la gynécomastie est relativement commune chez les hommes Aka. La fréquence du toucher n'est qu'une hypothèse. Les garçons adolescents vivent dans une hutte ensemble dans laquelle ils dorment serrés comme des sardines. Je n'ai pas observé cette gynécomastie dans les peuples voisins, par exemple, mais dans la communauté Aka, c'est tout à fait fréquent. Et à mon avis, c'est une des autres grandes différences avec la vie occidentale. Dans le Nord, les habitudes en termes de contact physique sont très différentes.
Selon Barry Hewlett, le développement de leurs seins est donc dû à la présence d'hormones favorisées par le style de vie qui caractérise ce peuple de chasseurs-cueilleurs. Mais le fait est que ce phénomène existe aussi dans notre société. Dans la communauté Aka, il est intégré comme faisant partie des normes, mais dans la nôtre, il est géré d'une toute autre manière. Fabrice, un homme d'une cinquantaine d'années, m'a raconté son histoire.
Moi, j'ai été horrifié de mes seins, en fait. Parce que quand j'avais 13 ans, j'avais des seins qui poussaient. C'était des petits seins, je sais pas, de 2-3 cm, je sais pas. En fait, c'est lié à des dérèglements hormonaux qui sont assez courants, apparemment, à l'adolescence. Et puis, alors je sais pas s'ils se font tous opérer, les garçons qui ont ça, ou bien si c'est que moi, ou bien si c'était à l'époque. Peut-être que maintenant, avec des traitements hormonaux, ils arrivent à régler ça, j'ai aucune idée. À l'époque, en tout cas, moi, ils ont estimé que c'était fallait opérer. Je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais c'est une ablation. Parce qu'en fait, ils t'enlèvent la glande mammaire, je crois, si j'ai bien compris. En fait, t'as des drains, puis ils te recousent, ça se voit pas, ou à peine. Et puis après, pendant quelques semaines, je crois, j'avais un gros pansement tout autour du thorax pour que ça cicatrise, en fait, tu vois, que tout ça se remette en place. J'ai passé mon été à la montagne, enfin, comme chaque année, d'ailleurs, mais j'étais à la montagne, et puis, j'ai peu de souvenirs, mais je me réjouissais que ce soit fini, que ce soit derrière, tu vois. J'ai pas réfléchi plus que ça aux conséquences de ce truc. En fait, j'ai même pas l'impression d'avoir pris une décision. Tu te dis, c'est super, ils ont une réponse, eux, puis c'est pas entre tes mains. J'avais un peu honte, quoi. Et puis la honte, c'était de les avoir, mais c'était aussi de les avoir enlevés. Dans le sens où de les enlever, c'était comme de reconnaître de les avoir eus, tu vois. C'est pas un drame, tu vois, j'ai jamais été déprimé, j'ai jamais eu des doutes, mais t'as un trou quelque part dans ton identité ou dans ta virilité, vu que je suis un homme. Imagine une femme qui a pas du tout de sang, elle est pas forcément bien avec ça. C'est un mélange de soulagement, tu te dis bon ok, réglons ça, et en même temps, comme c'est pas un détail, il manque un truc quoi. C'est ça le problème quoi.
Selon un article consacré à la gynécomastie dans le hors-série du magazine Cosette, paru au printemps 2022, l'affectation est classique. Elle touche en effet plus de 50% des adolescents et elle se résorbe naturellement dans 90% des cas. Je suis tombée des nues en lisant ces données. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ce phénomène avant que Fabrice ne me raconte son histoire ? À quel silence sont voués tous ces adolescents qui développent des seins au point de vouloir se faire opérer ? Et quel impact un tel événement est-il susceptible d'avoir sur la construction de leur identité ?
T'es un garçon, tu chopes des seins. Ok, alors ils règlent ça chirurgicalement. Mais le fait est que t'as quand même eu des seins. Enfin, en tout cas un début de seins. Et là, qu'est-ce que ça fait en fait ? Qu'est-ce que ça fait à un homme d'avoir eu ça? Et moi je le sais que je l'ai eu ça, tu vois. Personne ne le sait parce que j'ai oublié carrément ça. Mais moi, j'ai jamais eu de doute sur mon genre ou ma sexualité. Enfin, même à l'époque, j'étais un garçon, quoi. Tu vois, je faisais de l'escalade. Mais c'est là où c'est intéressant, en fait. Parce que moi, je me sens garçon, homme. Enfin, homme maintenant, à l'époque, je sais pas si je me sentais homme. Mais c'est vrai que j'ai jamais été un super... un homme, je sais pas comment on appelle ça, un mâle alpha, tu vois, j'ai jamais aimé le foot, j'ai jamais été super à l'aise dans les groupes, surtout les groupes de mecs, genre l'armée c'était l'horreur, j'ai toujours détesté ça quoi. Enfin les questions que je me pose c'est, est-ce que j'ai eu des seins parce que j'étais comme ça, ou est-ce que je suis comme ça parce que j'ai eu des seins, ou j'ai plus de seins, enfin c'est ce genre de questions un peu infinies que j'aurai jamais la réponse quoi.
Le vécu de Fabrice montre combien les normes établies sont exigeantes et intransigeantes. J'en conclus que nos corps, nos seins, sont loin d'être libres d'épouser les formes qui bon leur semblent. Ne serait-il pas temps de nous libérer de ces carcans ? Luc Alain Giraldo a partagé quelques réflexions à ce sujet. Il m'a permis d'apprécier le rôle essentiel que joue la diversité pour assurer l'évolution de notre espèce.
On a tendance à toujours voir les choses comme étant binaire ou clair, ou alors que dans l'ensemble du monde de vivant, on parle de biodiversité, puis on ne se rend pas compte que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Jusqu'à maintenant, on énumère des espèces, puis on pense, ah oui, il y a des chimpanzés, il y a des gorilles, il y a des humains, il y a des tulipes. Bon. Mais dans les faits, une tulipe, c'est très variable, un humain aussi. Et on veut classer les humains maintenant en mâles et en femelles, mais il y a une grande variation dans le sexe. Il y a des gradations. Pour faire court, le monde biomédical va dire qu'il y a des erreurs de développement ou des erreurs de parcours qui fait qu'un jeune adolescent sort mâle, surtout avec des seins, où il y a un peu de confusion dans le sexe de l'enfant, tout ça. Mais c'est pas des erreurs, je veux dire, là, il existe ces choses-là et il faut les admettre, tout simplement, plutôt que d'essayer de les soigner. Je comprends pas cette volonté de vouloir tout caser dans des boîtes étanches. La nature crée de la variation. L'évolution n'existe que parce qu'il y a de la variation. Et cette variation, elle est essentielle. Mais je trouve étonnant que dans tous les mammifères, il n'y a jamais eu, à part ces trois chauves-souris d'Ayak, là, il n'y a jamais eu de situation qui a favorisé, il n'y a jamais eu de raison ou de pour que le mâle gagne à allaiter le jeune. L'évolution de la lactation des mâles. Et ça, c'est intéressant, je pense. Et une partie de l'explication, c'est probablement qu'une fois qu'un des deux allait, c'est suffisant. L'apport du deuxième ajoute tellement peu que ça n'a aucune conséquence sur la survie ou sur l'aptitude biologique de l'individu. C'est frustrant que chez les humains, il y a les femelles qui sont recrutées pour faire cela, mais peut-être qu'on peut changer ça puisqu'on est capable de changer plein de choses. Hein. Chez les humains, on l'a déjà fait et c'est notre société qui peut rendre ça utile là, parce que maintenant, on définit nos rôles. Vous travaillez, et si votre partenaire veut allaiter, c'est peut-être une bonne chose, mais c'est nouveau dans l'épisode évolutif de l'humain. Et je serais curieux de savoir si on est capable de saisir l'occasion pour amener notre propre évolution finalement.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et si on tentait un grand coup de sac dans toutes ces idées reçues autour des seins? Si on acceptait que nos compositions hormonales ne sont pas toutes identiques? Si on intégrait l'idée que nos hormones ne restent pas figées au cours de nos vies, mais qu'elles fluctuent en intensité et qu'elles se transforment? Et que par conséquent, les seins de ce monde sont susceptibles de se manifester sous une énorme diversité de tailles et de formes? Si on apprenait à aimer tous ces seins tels qu'ils sont, à accueillir avec générosité les poitrines des femmes au sein très discret et à honorer les seins qui se développent chez certains hommes. Si on laissait nos identités se former et se transformer au cours de nos vies, au fil des expériences et des changements qui se manifestent dans nos corps. Si les éventuelles opérations esthétiques étaient motivées uniquement par nos choix personnels et intimes, plutôt que par une pression sociale. Et si on intégrait dans nos normes le fait qu'un homme puisse offrir son mamelon à un bébé sans même chercher à produire une lactation, mais simplement pour lui proposer du réconfort, comme on le fait si facilement avec une tétine? Plusieurs personnes interviewées ont exprimé la certitude qu'un homme qui réaliserait aujourd'hui ce geste vivrait des réactions impitoyables. Pourquoi ce geste nous dérange-t-il tant? Quelle sensibilité touche-t-il? Quel tabou? Lors de nos échanges, Barry Hewlett a insisté sur l'importance de contextualiser les coutumes d'un peuple, de chercher à comprendre les valeurs susceptibles de favoriser certains gestes, certaines habitudes. Quelles valeurs nous faut-il alors convoquer pour faire évoluer la considération qu'on porte au sein des hommes?
Ce qu'on peut apprendre des pygmées Aka, c'est que s'il y a des gens qui veulent le faire, des pères qui veulent le faire, eh bien on a là un exemple de toute une société. Et vous savez, ils sont 30 000, on n'est pas en train de parler d'un petit groupe ou de quelques individus. Une société, donc, dans laquelle il est habituel pour les pères de le faire, de donner le sein. Ce que je sens, c'est que c'est très difficile à transposer. On ne peut pas dire qu'on devrait instaurer cela dans notre culture. Je trouve cette idée problématique, parce que tous les autres éléments en lien avec l'égalité, le respect pour l'autonomie, la flexibilité, ce contexte-là est différent, et on ne peut pas simplement ignorer tout cela. Mais pour les gens qui aimeraient le faire, il faut savoir que cette possibilité existe. On sait aujourd'hui que cela fait partie de l'humanité. Et je crois qu'il s'agit surtout de comprendre cette diversité et que tout va bien. Cela ne veut pas dire que c'est juste pour tout le monde, mais voilà, on a ici tout un groupe de personnes pour qui cela fonctionne très bien.